Alors, on va continuer ensemble. On est donc dans 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7, et versets 1 à 16. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise, d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier et qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? On va s'incliner dans la prière. Alors, dans tout le chapitre 7, l'apôtre Paul donne des recommandations pour ce qui concerne le mariage, d'une part, et puis le célibat, d'autre part. Donc, on n'a pas lu toute cette deuxième partie qui concerne plutôt le célibat. On verra ça une prochaine fois. Donc, Paul donne un petit peu les avantages de la vie célibataire, de la vie seule. Il semble que les Corinthiens ont précédemment posé des questions à Paul sur cette question du mariage. Maintenant, qu'en était-il? Ils étaient chrétiens, comment devaient-ils faire par rapport à ces questions? Comment se comporter par rapport à ce sujet? Et après leur avoir parlé donc du problème de la débauche, on avait vu ça dans les deux chapitres qui précèdent, maintenant, il ouvre le sujet du mariage. Et le but, c'est de montrer tout d'abord que le mariage est une solution au problème de la débauche. Mais juste avant d'entrer dans ce sujet, il va quand même vouloir dire quelque chose. Il va chercher à dire quelle est sa pensée profonde d'abord sur le mariage. Et verset 1, donc on peut le relire. « Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. » Alors, c'est assez surprenant que, premier abord, d'entendre cela, que ça sorte de la bouche de l'apôtre, parce que il était clairement pour le célibat. Mais quand on l'entend prononcer cette parole, on se dit, mais est-ce que ce n'est pas contradictoire, finalement, avec ce que Dieu dit dans la Genèse? Dieu dit, il n'est pas bon à l'homme qu'il soit seul. Et là, Paul semble dire le contraire. Mais on voit bien qu'ici, Paul veut donner un avis. Il veut donner sa pensée sur cette question. La raison, c'est qu'il était lui-même seul, célibataire, et il avait pris toute la mesure et tous les bienfaits qu'il y avait dans une vie seule pour servir le Seigneur. Alors, il est possible que Paul ait connu une vie mariée. Les Écritures n'en disent rien. Mais c'est possible parce que la raison en étant que le Sanhédrin, donc le conseil des Juifs, pour en faire partie, il fallait être marié. Donc, on suppose que Paul a connu quand même une vie maritale. Peut-être était-il veuf, surtout qu'on se mariait assez jeune. Peut-être était-il veuf, peut-être aussi, il y avait eu séparation suite à la conversion. En fait, on ne sait pas. Mais on peut penser aussi que Paul avait quand même une bonne connaissance du mariage et dans la manière dont il le développe, et donc c'est aussi peut-être par expérience et pas simplement par révélation. Et pour lui maintenant, il pensait qu'il était bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Mais il donne un avis, comme un conseil bienveillant. C'est ce qu'il dit au verset 6 et 7, regardez. Il dit « Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Et il n'est pas question d'imposer sa vision des choses. Il veut simplement donner un conseil par expérience. Et il est bien conscient que c'est un don que Dieu fait, le fait de pouvoir vivre seul et de ne pas en souffrir à l'excès jusqu'à en mourir. Et donc que Dieu peut accorder cette grâce de vivre célibataire. Alors on ne va pas en parler aujourd'hui, mais on verra ça la prochaine fois. Verset 2. « Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Et on est dans le prolongement ici des chapitres 6 et 7. Dieu ne veut pas la débauche. Alors pour l'éviter, il y a le mariage. Qu'est-ce qui permet de sortir d'un état de débauche parce que quelqu'un coucherait dans le lit d'une personne sans être passé par le mariage? La solution que Dieu nous donne, c'est le mariage justement. Passer par le mariage. Dieu ne veut pas que nous ayons des relations débauchées. Alors il dit par Paul que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Et ici, c'est pas la question n'est pas de développer tous les aspects du mariage, c'est-à-dire toute sa richesse, tous ses bienfaits, tous ses devoirs, toutes ses difficultés, d'une manière exhaustive et large, pas du tout. Ici, Paul est en train de traiter de son sujet de la débauche. Il était parti sur ça. Et il arrive, le mariage est un remède à la débauche. Donc, quand on prend ce passage, on est clairement dans le sujet de la sexualité. Et si on veut comprendre toute la richesse du mariage qui dépasse largement cette question de la sexualité, alors il faut aller regarder dans tous les autres textes de la Bible qui en parlent. Mais pour régler la débauche, Paul dit, versets 3 à 5, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Et la Bible est très claire, elle dit que dans le mariage, il y a des devoirs réciproques, donc de l'un envers l'autre, des époux, et il y avait comme deux extrêmes à Corinthe. D'un côté, il y avait cette pensée, on peut dire, de libertinage, où on se disait, l'homme a des besoins, c'est comme manger et boire, il a des besoins sexuels, alors eh bien, il faut qu'il assouvisse ses besoins, il n'y a rien de mal à ça, et même aller voir des prostituées si c'est nécessaire. Et de l'autre côté, il y avait ceux qui se disaient que maintenant qu'ils connaissaient Jésus, eh bien, il fallait qu'il mène une vie vraiment pieuse et même pure, d'une grande pureté, et même au niveau de la sexualité, eh bien, ils se posaient des questions. Et donc, ils allaient plutôt dans le sens de l'abstinence, en se disant, mais c'est comme ça que je peux atteindre une vie spirituelle plus élevée, plus céleste avec mon Seigneur. Et ils se posaient cette question des relations sexuelles, et on peut dire que ça n'a pas changé dans le sens 2000 ans plus tard. Il y a encore cette pensée que la sexualité, c'est uniquement pour la procréation, pour avoir des enfants. Dans certains milieux religieux, on l'enseigne plutôt dans ce sens-là. Mais Dieu veut ni la débauche, ni l'abstinence, ni l'un, ni l'autre. Et si le mariage est une solution à la débauche, alors une fois dans le mariage, l'abstinence ne devrait pas avoir lieu, forcément. À noter que Paul en parle vraiment avec une grande pudeur. Il parle de choses, si le monde devait expliquer ces choses, ça serait vraiment différent. Ce serait d'une manière vulgaire. Mais il dit, Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. Ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. On voit ce qui est écrit dans la Genèse. Il est écrit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Et dans cette parole, il y a bien sûr l'union physique du couple, qui scelle le mariage et qui va créer un besoin après qu'il va falloir remplir tout au long de la vie, un besoin sexuel. Et donc, c'est quelque chose de légitime dans la vie d'un couple. Mais je me permets de faire une parenthèse pour dire que ce passage n'est pas une loi qui permettrait d'imposer froidement et égoïstement les relations dans le couple. Parce que malheureusement, certaines personnes peuvent être des princes charmants, merveilleux, jusqu'au mariage. Et puis après, les choses commencent à aller de moins en moins bien. Hein, et puis, il y a des accrochages et tout ça. Et puis, ben, voilà, hein, Dieu l'a dit. Hein, tu le dois. Clac. Non. Paul dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Que la femme agisse de même envers son mari. Et c'est intéressant parce que dans l'ordre, il est d'abord question du mari qui doit rendre à sa femme ce qu'il lui doit. Et ce qu'il lui doit, ce n'est pas forcément un moment au lit. Bien sûr, ça l'est dans le passage, mais un mari a des devoirs d'amour et d'affection qui dépassent largement la chambre à coucher. Et l'homme n'intègre pas toujours ça, cet aspect, en tout cas, du mariage, mais les devoirs ne sont pas forcément identiques et les besoins ne sont pas forcément identiques. Et donc, d'abord, l'homme doit remplir eh bien, ce qu'il doit vis-à-vis de sa femme, et ensuite, eh bien, la femme rend ce qu'elle doit vis-à-vis de son mari, qu'elle agisse de même envers son mari. Donc, on peut dire que le devoir de s'offrir va de pair avec le devoir d'aimer. Il y a les deux. Et c'est là, dans ce type de mariage-là, où il y a de l'amour, où il y a une affection qui est réciproque, qu'alors, eh bien, le mariage protège vraiment de la débauche, de l'adultère et de toutes ces choses. Parce que c'est le cadre voulu par Dieu, où Dieu veut bénir dans ce domaine de la vie. Paul conclut sa pensée avec les versets 8 et 9. Il dit « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Et si la passion est telle en nous, si voilà, ça brûle hein, et qu'on n'arrive pas à se maîtriser, alors eh bien, Dieu dit, mais mariez-vous. Et en disant cela, il suggère aussi qu'il est possible de se maîtriser. Paul, se maîtriser. Et donc, c'est aussi une des solutions possibles, et on verra la semaine prochaine cette question du célibat. Et de toute façon, dans la vie de chaque homme, quoi qu'il arrive, il y a toujours des moments où il faut se maîtriser sur ce sujet-là. Mais il peut y avoir vraiment un désir qui brûle, et voilà, ça dépasse, et la maîtrise de soi ne devient plus possible. Alors dans ce cas, Dieu dit, il vaut mieux se marier que de brûler. Mais attention, le mariage, on voit dans ce passage que c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. On peut se dire, c'est simple, je trouve quelqu'un qui me plaît, je me marie, et voilà, c'est réglé. Mais c'est bien de se rappeler qu'est-ce que dit la Bible sur le mariage et sur le choix d'un époux ou d'une épouse. Il suffit pas de prendre la première personne qui passe, elle nous paraît gentille, ou bien de regarder attentivement un homme en se disant « peut-être il va faire attention finalement à moi » parce que… Verset 39, regardez un petit peu plus loin, on va avancer dans le chapitre. Chapitre 7, verset 39, il dit « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Et si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. » Et d'abord dans ce verset… On voit que le mariage implique une permanence. Il y a un lien qui va durer dans le temps Pour reprendre l'expression qui est souvent employée lors d'un mariage, hein, le mariage est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, ça dure dans le temps. Ça peut durer 20 ans, 30 ans, 50 ans.
100 ans.
Non. À moins de vivre 120 ans et de s'être marié à 20 ans. Mais c'est long. C'est très long. Et il vaut mieux pas se tromper. Parce que si tout va bien, ça peut être une merveille. Mais si ça va pas bien, alors là, ça devient pesant, ça devient très lourd. Alors Dieu dit que ce soit dans le Seigneur. Et on peut dire qu'un drame familial peut commencer ici lorsque on ne recherche pas à faire les choses dans le Seigneur. Et dans cette expression, il y a d'abord l'importance d'épouser quelqu'un qui est au Seigneur, qui appartient au Seigneur. Comment on va entreprendre, envisager de faire une union avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que nous, qui n'a pas les mêmes principes que nous, qui n'a pas le même amour pour Dieu, le même amour pour la Bible, le même amour pour les frères et sœurs, le même amour pour la prière. Comment envisager de faire ça? Dieu dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et le mot infidèle, c'est la personne qui est apistos, c'est-à-dire sans foi, incroyante, ou sans confiance en Dieu. Voilà. Quelqu'un qui ne croit pas, qui ne fait pas confiance. Et donc, se marier dans le Seigneur, c'est d'abord se marier avec quelqu'un qui n'est pas apistos, quelqu'un qui a foi, qui a confiance au Seigneur. Donc, un chrétien, une chrétienne née de nouveau. Mais dans le Seigneur, c'est aussi dans la volonté de Dieu. Et il ne suffit pas de trouver un chrétien ou une chrétienne, et puis sans plus, on ne se pose pas de questions, c'est bon. Et on y va. Dieu a une volonté pour chacun d'entre nous. Je ne pense pas que ça veut dire qu'il y a un chemin tout tracé et qu'il n'y a pas d'autre chemin. Je ne pense pas que ce soit ça. Mais Dieu a une volonté. Et Dieu dit oui, il permet, ou il dit non. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Et on peut dire que toutes les unions ne sont pas bonnes. Est-ce que l'union à laquelle nous aspirons est dans le Seigneur, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu, sa volonté pour nous? Maintenant, quand on entre dans sa volonté, ce n'est pas la garantie qu'après tout va être facile, hein, mais on peut entrer dans sa volonté et malgré tout vivre des choses difficiles, mais c'est la garantie qu'on ne sera jamais seul, que Dieu va conduire les choses, et que Dieu va pouvoir construire quelque chose qui va être durable. Je lisais hier, il me semble, Luc sur cette question de bâtir sa maison sur le roc. Vous connaissez ce passage, hein? Mais dans Luc, il est dit que celui qui vient à Jésus, qui entend ses paroles, qui les met en pratique, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et il a posé sur le fondement le roc. Et creuser profondément, ce n'est pas prendre le premier venu ou la première venue qui nous semble sympathique. Ce n'est pas ça. C'est vraiment, je veux construire ma vie sur la volonté de Dieu, sur sa parole, sur ses conseils, sur ce qu'il attend de moi. C'est ça qui est vraiment important. Est-ce que Dieu me donne son accord pour aller dans cette direction? Oui, j'y vais. Mais s'il me dit non, alors je m'arrête. La première question que tout homme ou toute femme devrait se poser avant de se permettre d'envisager quelque chose avec quelqu'un, c'est Seigneur, est-ce que je peux avancer dans cette direction ou non? Ça, c'est très important. Pourquoi Dieu veut qu'on cherche son aval? Parce que le mariage est quelque chose qui engage la vie entière. Une passion éphémère, ça peut commencer très rapidement. Ou des sentiments amoureux même, ça peut commencer très rapidement. Une fois que ça commence à s'enflammer, hein. C'est ce qui s'est passé pour un des fils de David, vous vous souvenez? Avec sa sœur. Amnon, je pense. Avec avec
Tamar.
Tamar. Oui. Hein? Une catastrophe. Mariage, ça ne se construit pas comme ça. Un mariage, c'est une chose qui est vraiment mûrement réfléchie. Ça prend de temps, du temps, et ça ne peut se faire que s'il y a une conviction réciproque qu'on est bien dans le Seigneur. Parce qu'une fois que l'alliance est au doigt, c'est définitif. Dieu le voit comme ça. C'est ce que Paul nous dit au verset qui suit. Regardez versets 10 et 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Et là, Paul répond à la question du divorce, finalement. Il dit non. Non. Mais vraiment, on ne se supporte plus. C'est vraiment difficile. Hein? On a même déjà commencé à faire chambre à part. Paul dit non. Peut-être vous allez faire foyer à part, mais vous resterez seul, chacun de votre côté. C'est ce qu'il dit. Hein? Pourquoi ? Parce que le mariage est sérieux. Et les religieux juifs ont interpellé Jésus sur cette question du divorce. Et la réponse de Jésus, tout de suite, a été de ramener... Donc, à ce à quoi Paul fait référence, hein, Jésus a dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ?» Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Et ça, c'est la volonté de Dieu, que l'homme ne sépare pas ne divorce pas de ce que Dieu a joint. Et le travail d'un couple, il se situe dans la construction de leur union. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est jamais quelque chose qui est automatique, mais c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. Et sans cesse, on est obligé de construire, de s'ajuster, de réorienter, de s'affiner. Hein, on est sans cesse comme ça. Et on peut dire que le mariage, c'est le lieu central de la sanctification d'un homme et d'une femme. Quand ils sont mariés, mais le mariage, c'est là où il y a une vraie sanctification. Dieu se sert de toutes choses pour la sanctification. Il se sert de l'Église. Et voilà, quand on n'est pas marié, c'est sûr, hein, dans la communion, dans les frères et sœurs, il y a cette sanctification. Mais pour ceux qui sont mariés, premièrement, c'est là. C'est là où il y a un vrai travail dans le cœur. Dieu veut notre sanctification à tous. Et un mariage oblige à changer tout le temps. Si on veut que ça change, on est obligé de changer. On est obligé de se bonifier, de se perfectionner pour que l'amour eh bien, puisse être... réciproque, hein, avec de l'attention. Sinon, tout vole en éclats. Mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu que l'homme divorce. Le plan de Dieu, c'est justement qu'il y ait un travail constant sur soi, par le Saint-Esprit, afin que, eh bien, on avance, hein, et on est transformé. Alors Paul dit, si elle est séparée, eh bien qu'elle demeure seule, sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et là, on voit bien, dans ce qu'il dit, hein, il envisage un seul mariage ici. Hein. Et il dit, s'il y a séparation, eh bien, il peut y avoir réconciliation, c'est possible. Ou sinon, eh bien, que chacun reste de son côté, sans se marier. Et ça sera une épreuve de sanctification, hein, de continuer à vivre sa vie seule, comme cela. Mais on peut dire que le cœur de l'homme... Et tortueux, méchant, comme dit la Bible, hein, depuis la chute. Et si Dieu, au commencement, a fait l'homme et la femme pour qu'ils soient une seule chair, d'une manière durable, le péché a détruit voilà, cette belle image, cette belle union. Alors les Juifs vont dire à Jésus, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?» Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc c'est le péché qui a conduit au divorce. Et Moïse a dû légiférer, hein, avec, en imposant qu'on écrive une lettre circonstanciée, mais pourquoi, eh bien, ça ne va pas, et pourquoi, et je demande le divorce. Hein, parce qu'il semble que les Juifs disaient, je te répudie. Voilà, une parole, et c'était terminé, on tournait la page. Donc, Dieu a empêché ça en disant, non, vous allez écrire les raisons, hein, que ça soit au vu de tous, hein, et que ce soit bien clair. Et tout vient de l'interprétation d'un texte de la loi, c'est Deutéronome 24.1. Deutéronome 24.1. Il est écrit, « Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. » Alors la question c'est, mais qu'est-ce que c'est cette chose honteuse, hein, chez la femme qui permettrait qu'on la répudie comme ça? Vers 100 avant Jésus-Christ, il y avait deux écoles de pensée rabbinique, hein, donc qui suivaient, hein, les pensées de deux rabbins. C'était Hillel et Shammai. Hillel, c'était un petit peu la branche libérale, hein, ouverte, voilà, très large. Et pour ce rabbin, ben, la chose honteuse, c'est n'importe quoi. Ça veut dire, si c'est une mauvaise cuisinière, c'est bon. Si elle ne fait pas bien son ménage, hop, on peut. Enfin, j'en passe les meilleurs, hein, on avance comme ça. Le mot hébreu, donc dans Deutéronome ici, c'est erva, il signifie nudité, organes génitaux féminins impliquant une exposition honteuse et plus loin une idée d'indécence. Alors, je ne sais pas d'où il tirait la cuisine ou le ménage ou des choses comme ça. Hein. Et le rabbin Shammai, c'était l'autre branche qui, elle, était beaucoup plus conservatrice, hein, attachée aux Écritures. Et pour lui, la seule raison, c'était l'infidélité. S'il y a infidélité, alors là, eh bien, qu'il écrive une lettre de divorce. Et on peut dire que Jésus vient clôturer le débat, puisqu'il dit, Jésus dit, « Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Et le mot infidélité, c'est « porneia », c'est le mot qu'on avait, hein, dans le chapitre précédent, c'est « débauche » en fait, hein, « débauche ». Donc, au vu des Écritures, il n'y a qu'une seule possibilité d'un divorce, c'est lorsqu'il s'agit de deux chrétiens, hein, s'entend, c'est que l'un des deux trahisse l'alliance, hein, par un acte de débauche, hein, et donc par l'adultère. Pour revenir sur l'expression « quelque chose de honteux », c'est donc quelque chose qui est immoral, qui est l'adultère, qui est de la débauche, hein, qui implique, hein, donc une relation en dehors du couple. Et ça ne veut pas dire que le mariage est rompu obligatoirement, ça y est. Il y a eu chute, on brise tout. Non, Dieu enseigne aussi le pardon et il enseigne la miséricorde et la grâce. Et il y a aussi des couples où c'est arrivé, où il y a eu chute, mais il y a eu pardon, il y a eu réconciliation. Et ça a pu recommencer et Dieu a pu reconstruire quelque chose de plus beau et de plus fort. C'est un miracle à chaque fois. Hein. Et le pardon existe. Mais s'il y a une raison qui autorise le divorce, eh bien c'est le cas d'infidélité, donc d'adultère. Alors la Bible ne parle pas des violences conjugales, mais le bon sens moral dit que quand il y a violence, hein, pour la femme, pour les enfants, eh bien, il faut éloigner, bien sûr. Et si eh bien, c'est quelque chose qui perdure, ça engendrera de fait un divorce. Mais il n'y a pas, dans les Écritures, d'autres raisons qui autorisent un divorce d'un chrétien. Mais si ça ne va pas dans mon couple, si je ne m'entends pas avec, ben la Bible ne dit pas, non, pas de divorce. Marcher avec Jésus, c'est aussi laisser le Seigneur faire une œuvre de sanctification dans notre cœur. Et parfois, il y a des grands combats, il y a des sacrifices, il y a une abnégation. Mais il faut ça pour que ça perdure et pour que ça marche. Quand on regarde tout ça, ça doit nous faire réfléchir sur l'aspect de choisir un époux ou une épouse et de s'engager dans le mariage. Et on voit, c'est vraiment sérieux. Dieu le dit, hein. Pas quelque chose à prendre à la légère. Et même si nous sommes mariés à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, alors nous sommes quand même engagés. C'est ce qu'il dit. Regardez versets 12 et 13. Il dit « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. » Peut-être je fais juste une parenthèse courte ici. Quand il dit « Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis », ce n'est pas que les paroles de Paul sont sujettes à caution. Les paroles de Jésus, c'est bon, parole de Dieu, mais moi, bon, je vous donne mon avis ici. Non, hein, c'est la parole de Dieu. Simplement, Jésus n'a pas parlé pour ce cas-là, pour ce cas de figure-là, de quelqu'un qui est au Seigneur avec quelqu'un qui n'est pas au Seigneur. Et donc, il dit, mais ce n'est pas le Seigneur qui l'a dit, non. Mais moi, je le dis, parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit aux autres? Ce n'est pas le Seigneur qui, mais c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Et les couples mixtes, croyants et incroyants, sont aussi liés par le mariage. C'est aussi sérieux. Et ça arrive souvent quand on est marié, par exemple, et puis l'un des deux se convertit. Voilà, nécessairement, on se retrouve dans ce cas de figure. Mais même dans ce cas, on ne peut pas bafouer l'union sacrée du mariage. Dieu reconnaît chaque mariage. Et on ne peut pas revenir en arrière sur ce qui a été fait. Ça y est, on est marié. Un chrétien, donc, ne peut pas divorcer sous prétexte « Oh, ben, mon mari, il n'aime pas le Seigneur » ou « Il n'aime pas la Bible ». Il a jamais envie de lire la Bible. Je divorce. Non, non. Dieu dit, eh bien, il faut rester. Il va falloir chercher à vivre aussi avec cet incroyant et chercher à le gagner à Christ. Alors, ça va être peut-être pour une femme en usant de plein de douceur, comme dit la parole dans Pierre, hein, être plein de douceur et voilà, de soumission et de grâce, hein. De l'autre côté, ça va être peut-être pour le mari de ne pas s'aigrir contre sa femme qui n'aime pas le Seigneur. Mais il va falloir essayer de préserver son mariage et de gagner l'autre. Et même la peur d'être soi-même ou de voir ses enfants influencés par la personne qui n'est pas croyante, hein, parce qu'un chrétien peut se dire « Mais mes enfants, voilà, ils sont influencés par lui, ils regardent la télé. Hein, cette peur-là, ben, Dieu dit non, non. » Il dit, verset 14, « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. » Et ça signifie que la présence d'un chrétien dans un couple accorde à ce foyer une grâce particulière. C'est comme si, eh bien, les enfants sont à part. Et même le conjoint est à part, puisqu'il dit, hein, il dit, le conjoint est sanctifié par la personne qui est là, dans le couple, et qui est chrétien. Et les enfants sont sanctifiés, ils sont mis à part. Ça veut dire qu'il y a une grâce, il y a une bénédiction. Ils ne sont pas impurs simplement parce que eh bien, quelqu'un n'est pas au Seigneur dans le couple. Non, il y a une grâce, quelque chose. Et Dieu pourra faire quelque chose aussi si on est fidèle, hein, et on le lui demande. Maintenant, si un non-croyant veut se séparer, alors eh bien, les choses sont différentes. Il dit versets 15 et 16, « Si le non-croyant se sépare, alors eh bien, qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Et si c'est le conjoint qui ne supporte plus de vivre avec un chrétien ou une chrétienne, ou bien s'il ne veut plus faire d'efforts dans le couple pour sa marge et dit non, moi je m'en vais, alors là, il ne faut pas courir après. Si c'est lui qui veut partir, alors eh bien, il est libre de partir. Et, mais là, ce n'est pas le frère ou la sœur qui a rompu l'alliance. Il subit, en fait. Et, comme ça. Et Dieu nous dit qu'il ne faut pas tout faire pour retenir l'incroyant. Il dit, mais sais-tu si tu vas sauver ton mari ou si tu vas sauver ta femme? Peut-être que, en fait, ce désir de se séparer de toi, c'est un désir de repousser Christ. Hein, et jamais il acceptera Jésus-Christ. Et donc, il faut l'accepter. Donc, pour conclure, le mariage est assurément une solution pour sortir, hein, pour être protégé, éviter la débauche. Mais cependant, c'est sérieux, vraiment sérieux. On peut se tromper en allant au restaurant. Hein, on aura à subir une heure, là, parce qu'on n'a pas pris le bon menu. Mais on ne peut pas se tromper quand on est là en train d'enfiler la bague au doigt. Hein. Là, il ne faut pas se tromper. Il faut vraiment pas se tromper, pas le prendre à la légère. Mais même si jamais c'est arrivé, même si c'était le cas, et si notre mariage est devenu un chemin difficile, Dieu ne nous abandonne jamais. Il est avec nous, quoi qu'il arrive. Il ne nous abandonne pas. Et parfois, même si le mariage ne brille pas comme un joyau, comme une image de l'épouse avec Christ, puisque c'est ça le mariage, même si ça ne brille pas comme ça, tout au moins, Dieu peut faire briller notre vie personnelle dans le couple, au sein de notre couple. Et les chemins difficiles sont souvent un moyen pour Dieu de faire une œuvre justement plus grande et plus belle dans le cœur d'une personne. Et juste, je pensais à une image, c'est celle d'Abigaël, pleine de sagesse, pleine d'intelligence, voilà, qui aime le Seigneur, qui est vraiment une femme de qualité, mariée à un époux, Nabal, qu'elle défend. Un homme égoïste, violent, orgueilleux. Mais parce qu'elle a obéi au Seigneur, elle a été fidèle à son Seigneur. Alors, eh bien, Dieu a fait d'elle vraiment un joyau. Et finalement, elle est remarquée, après la mort de Nabal, hein, puisque Dieu va lui reprendre la vie, elle sera délivrée. Elle est remarquée par le roi, qui va la prendre pour épouse. On va avoir un moment de prière maintenant. On peut louer ensemble le Seigneur.